Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous. Merci de nous suivre comme chaque semaine dans ce podcast On s'aime fort. Un petit rappel, On s'aime fort, le livre est disponible évidemment dans toutes les librairies, dans les grands réseaux et puis bien sûr en vente sur monjardinbio.com. En tout cas, merci infiniment pour tous vos messages, ça nous fait très plaisir. Top générique. On s'aime fort. Le podcast du jardin. Nous sommes le vendredi 3 mai, bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver avec un ciel très pluvieux hein, finalement. Ça c'est un petit peu la météo, vue également en Ile-de-France, avec des avalanches de grêle, hein, véritablement. On aura l'occasion peut-être d'en parler dans quelques
minutes. Oui, on va reparler de la grêle, ouais.
Voilà,
enfin, pas quand il y a eu des boules de pétanque, où là, il n'y a rien à faire, enfin, pas grand-chose. Hein.
C'est ça.
Mais voilà, on pense toujours, on n'arrête pas de penser aux professionnels. Depuis le début, enfin depuis un bout de temps, je crois que toutes les semaines on est en train de dire on pense aux professionnels, on pense voilà.
Bah là on pense un peu à tout le monde, mais ouais. Surtout à toi puisque bonjour Eric.
Bonjour.
Oui on se parle avant le début d'enregistrement, mais mm-hmm. C'est vrai que l'idée est quand même de se saluer à l'antenne, comme on
ouais,
dit, enfin en
ouais.
Tout cas dans le podcast. Tout va bien?
Non j'ai froid.
Ah t'as froid? Bah oui bah ça, hein, on est d'accord. Là il fait 13 degrés au moment où...
Ah non mais moi je suis tout nu. Hein.
Où on enregistre...
Moi je suis tout nu parce que je prépare ma journée de demain.
Ah oui c'est la journée du jardinage nu c'est ça?
Ouais c'est pour ça, je me prépare...
Ah oui c'est vrai.
Je me prépare à l'avance, je prépare mon corps nu aux températures pour demain, donc voilà je me les pèle là.
Et puis en plus, alors demain journée du jardinage nu... Et dossier de la semaine consacré à la courgette facile. On m'a parlé de toi hein, souvent. Hein. On m'a dit que tu avais la courgette facile.
Eh ben, ouais, mais là.
C'est le sujet de cette semaine.
C'est ça.
On va apprendre à cultiver la courgette.
Oui, et puis surtout, penser à peut-être qu'il y en a plein qui ont eu des gros soucis avec leurs semis en pot parce qu'ils les ont sortis un peu trop tôt en godet, croyant que le froid allait être tranquille. Quoi. Et puis en fin de compte, même sous serre, il y en a qui ont perdu leur courgette. Un pied de tomate qui a un coup sur la tête peut reprendre du pied. Un pied de courgette qui a pris le froid, il revient pas quoi.
Oui, donc ça veut dire que il ne fallait pas les mettre trop tôt dehors.
Ouais.
Et il ne fallait pas non plus être trop précipité pour les semer. C'est un peu
ouais, c'est ça trop. Ouais, c'est ça le truc, c'est que voilà, c'était là quand ça il y a un plantil qui sort et puis moi par exemple, je me suis fait avoir sur du melon.
Oui.
Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai semé les melons trop tôt, il faisait trop froid, bah ils ont versé, hein, c'est-à-dire qu'ils se sont cassés la figure.
Oui.
Sol, voilà, godet trop humide par rapport à la fraîcheur. Donc ils ont pourri, donc il faut que je les resème. Enfin, je les ai ressemés.
Ok. Bah, en tout cas, l'idée, c'est clairement aussi de voir comment on peut rattraper le coup.
Oui, voilà, c'est ça.
Avec notamment la grêle, Eric, parce que c'est ce que tu disais en préambule de cette émission. Alors bien sûr, on pense comme chaque année et comme chaque semaine quasiment aux professionnels, notamment les viticulteurs dans le Chablis, hein, où il y a eu vraiment des orages, des cellules orageuses, des orages stationnaires avec véritablement, comme tu disais, des boules de pétanque. Et on imagine bien qu'il ne reste pas grand-chose. Après, tu disais, alors moi je me souviens d'un papier, je crois il y a un ou deux ans sur notre blog, que vous pouvez d'ailleurs aller retrouver en ligne directement, que faire après un épisode de grêle. Alors ce papier, je crois, on l'a sorti en juin. Donc c'est vrai qu'en juin, c'est un peu plus avancé. Mais là, évidemment, hors dégâts matériels, mais si on a envie de recommencer le jardin, c'est absolument pas trop tard.
Oui, c'est pas trop tard.
Enfin, commencer, non, pas, même pas recommencer, commencer.
Commencer le jardin, voilà, il n'y a pas. Bon, après, il ne faut pas oublier qu'aussi, il y a les arbres d'ornement.
Voilà.
Le jardin d'ornement, il en a pris un bon coup, hein, globalement. Donc là, il faut savoir, on ne peut pas trop faire grand-chose. Hein, hormis voilà, pulvériser des grands chênes et compagnie, il faut laisser faire. Hein, voilà. Ça va repartir. Sachant que tout ce qui va être production, je dirais, sauvage, que ça soit en noix, ou chose, là, il risque d'avoir des problèmes. Hein. Parce que justement, là, ils ont pris des grands coups. Donc, peut-être que là, on va plutôt penser à se rétablir et faire du bois, refaire de la feuille, que plutôt faire du fruit. Hein. Donc, la cueillette sauvage risque d'avoir un petit... Ça sera un peu compliqué. Mais bon, hormis ceci, s'il y a vous avez des végétaux et vous avez pris un petit peu de grêle, c'est-à-dire qu'il y a des impacts sur les feuilles, jusqu'à casser des feuilles, voire peut-être des tiges, mais sans plus... l'intérêt, là, c'est sur le potager. Ce que je vous invite à faire, c'est couper Surtout si vous avez déjà mis des pieds de tomate, hein, on est dans le, si on est un peu plus dans le sud, hein, bah vous coupez en dessous de l'impact, hein, tout simplement, sur l'œil qui suit, qui est impeccable. Comme ça, ça va repartir du pied. Au lieu d'avoir un pied de tomate à une tige, comme je sais que beaucoup de gens préfèrent, bah vous en aurez sur plusieurs, ou vous sélectionnez la tige la plus forte pour refaire la tige principale. Tant que les racines n'ont pas été attaquées, je veux dire, ça va redémarrer, voilà, il y aura un petit retard. Quoique, j'en sais rien.
Quoique, on est début mai, Eric. Justement.
Oui, c'est pour ça, ça rattend. Mais par rapport au secteur du sud, dans le nord, bon, on n'a pas planté nos tomates. Hein, voilà.
Enfin, vaut mieux pas, en tout cas.
Vaut mieux pas, en tout cas. Bien sûr, les engrais verts ont pris un coup aussi. Hein, savoir que ceux qui aiment bien aller jusqu'au bout, comme moi j'aime bien, c'est-à-dire juste à la défloraison, bah là, ils ont été sectionnés par la grêle aussi. Hein, ben, voilà, c'est pas très grave, ça, parce que vous les... là, il faudra les cisailler en partie, de manière à jouer vraiment ce rôle d'engrais vert, c'est-à-dire des cisailler sur place et les laisser sur place. Alors attention aussi, hein, des fois je le vois dans le monde agricole, il y a certains engrais verts qui ont été mis et qui sont, ils sont coupés et exportés. Faites pas ça les jardiniers et les jardinières, hein. Si vous avez un engrais vert, il faut bien le laisser sur place, sinon vous appauvrissez votre sol.
Oui, ça ne sert à rien sinon. Voilà, l'intérêt, voilà. C'est bien sûr de le laisser bien et de l'enfouir.
Alors il y en a qui m'ont déjà dit, oui, mais si c'est pour le mettre sur les 50 cm, 1 mètre de côté, oui, bien sûr. Si vous laissez dans un environnement qui est proche de la parcelle que vous avez mis, voilà, si c'est un mètre et vous le mettez à 15-20 cm pour mettre sur le mètre d'à côté, là c'est bon, hein. Globalement, là il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas l'exporter, voire même au compost, hein. Faut le laisser sur place pour jouer vraiment ce rôle d'engrais vert. Parce que tous les éléments nutriments qui ont été dans la tige, si vous les exportez, vous appauvrisez vos sols en éléments.
Bien, une fois qu'on a fait ce point sur les dégâts de la grêle,
voilà, une petite pulvérisation peut-être.
Voilà, alors justement, c'est là où je voulais en venir. Ouais. Pour ce qui est dehors et pour les fruitiers notamment, qui ont subi, alors bon, s'il n'y a plus de fruits, on ne va pas les raccrocher, non, évidemment, non. Mais pour penser au moins les plaies, parce qu'on oublie toujours, hein, et c'est la problématique pardon, chez les professionnels, je pense notamment aux viticulteurs, quand on est en année N, on se prend un coup de grêle, c'est non seulement bien sûr, ouais, la récolte, mais selon le degré et l'intensité de l'épisode grêleux, c'est aussi et surtout l'année N plus 1.
Ouais, ça, les gens, il y a pas mal de gens qui comprennent pas ça.
Alors justement, réexplique-nous la problématique des conséquences, j'allais dire, donc l'année prochaine, parce qu'il s'agit d'avoir du bois de taille.
C'est ça, et le bois de taille, c'est du bois de taille pour l'année prochaine. Hein.
C'est ça.
C'est comme sur les fruitiers, si la branche, par exemple, de cerisier, si vous avez des bouquets de mai sur cerisier, vous savez, les tiges qui sont remplies de boutons, ils sont cassés, vous perdez là 5 à 10 ans de production. Donc la grêle, quand elle est très très forte, quand elle fait des dégâts parce qu'il faut retailler dedans parce que les branches sont cassées, ça impacte plusieurs années, quoi.
Oui, donc ouais. C'est là le problème. C'est pour ça qu'on, ouais, parle aussi des conséquences sur les années qui suivent, les années, ouais, prochaines. Et quand on n'a pas de bois de taille, on ne peut pas tailler. Hein. Pareil, non, sur les fruitiers, Eric.
Oui, parce que sur la vigne, il faut refaire le bois de taille qui a été cassé, quoi. Donc,
c'est ça.
Donc, refaire une année.
Eric, justement, tu parlais de pulvérisation il y a un instant.
Oui, voilà, une pulvérisation. Alors, le plus soft, mais aussi efficace, c'est faire une pulvérisation avec de la prêle, hein, bien sûr, pour limiter les problèmes cryptogamiques, parce qu'il ne faut pas oublier que quand il y a plaie, et ensuite vous avez, et en même temps humidité, et puis après encore humidité, et puis peut-être les chaleurs qui vont revenir, là c'est la porte ouverte aux champignons, maladies cryptogamiques, donc il faut essayer de stopper tout ça. Donc le fait de faire une pulvérisation avec la prêle, c'est pas mal. Ce que vous pouvez faire aussi, mais sans mélange, ou si vous les mélangez, il faut les faire à part. C'est-à-dire vous faites votre décoction de prêle et à côté vous faites votre extrait fermenté de consoude, une pulvérisation avec de la consoude. Alors la consoude bien sûr pas pure, alors que la prêle vous pourrez presque le faire pur, mais bien que 20% c'est suffisant. Avec la consoude vous ferez, vous mettez 19 verres d'eau pour un verre d'extrait fermenté de consoude, voilà. Vous en mettez deux, c'est pas très grave, et vous pulvérisez. Un consoude ça veut dire réparer, hein, comme les humains utilisaient la consoude, et encore il y en a qui l'utilisent quand il y a une fracture ou ils ont mal, ça permet de favoriser la guérison. Donc là aussi, il y a des choses comme ça. Bon, là, je ne me permettrai pas de donner la posologie parce que je ne la connais pas par cœur, mais vous avez en biodynamie, quand il y a eu un épisode de grêle ou un épisode de casse comme ça, qui peut être des fois des grosses gouttes aussi, hein, vous avez des préparations qui sont aussi intéressantes à mettre sur le sol et sur les végétaux.
Bien, donc renseignez-vous dans la
pas,
littérature
voilà,
qui a.
Désolé, j'ai pas le, j'ai plus en mémoire le. Voilà.
Tu parlais de dosage, je fais juste un petit, une petite parenthèse avec Jean-Michel qui nous a envoyé une question en disant je comprends pas ce qu'on commercialise de la prêle séchée. Et comme il me disait, je vois des fois 20 grammes, 150 grammes. C'est bien 150 grammes de plantes séchées par litre d'eau, Eric, pour une
décoction. Oui,
décoction.
Alors même, on dit souvent que c'est. Quand vous mettez, je dirais, de la prêle par litre, on peut aller, voilà, c'est 150 grammes hein, par litre.
Par litre, voilà. Donc on était bon. Voilà, en tout cas, pour avoir répondu directement à Jean-Michel. Est-ce qu'on a fait le tour, justement, de notre édito, j'allais dire,
oui,
météo,
voilà,
pour
alors,
passer au tempo.
Oui, alors là, on montre bien. Et justement, je voudrais repréciser. Je vois le malaise agricole. Alors, c'est peut-être l'heure peut-être avoir des retours saignants, mais je me permets de le dire. On voit le malaise agricole aujourd'hui avec, il y a des grandes difficultés, la boue. Quand je vois la boue qu'il y a dans les communes, là, quand on a eu des coulées de boue, malheureusement, une morte, je dirais, un grand blessé, je dirais, dans le nord de la France, de mémoire. Il faut savoir que là, ces coulées de boue, c'est quand même pas normal, quoi. Et souvent, ça vient des champs. Et là, malheureusement, en raison de techniques agricoles qui ont été... qui ont oublié qu'il y avait un sol, le sol n'est plus capable de récupérer la flotte, quoi. Donc on sait très bien qu'une fois que le sol est gorgé d'eau, c'est la première partie qui part, et notamment, comme il y a cette partie qui est juste en dessous, en principe, d'une litière, et on voit bien que les sols manquent de matière organique et le sol manque, je dirais, de structure et n'est plus capable d'absorber de la flotte, quoi. Alors en plus, on n'a pas de chance, on se prend des gros épisodes de flotte en peu de temps. Mais tout ça, c'est une conséquence de techniques agricoles qui ont été apprises par les agriculteurs à un moment qui doit évoluer. Hein. Ça me semble hyper important. Et pareil pour les jardiniers. Les jardiniers, alors c'est facile de critiquer, mais j'ai toujours, c'est là que ça montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Là, c'est le trop plus. En plus, à un moment, ça fonctionnait bien parce qu'il pleuvait normalement. Il y a eu des fois des épisodes de pluie hyper importantes, mais là on voit bien qu'on a des gros soucis parce qu'on a des grosses pluies de 30 jours à un jour, hein, 30 jours, la pluie d'un mois en une journée. Alors, mais comment voulez-vous qu'un sol qui est fragilisé puisse supporter ça? Voilà.
Pour ceux qui, alors après, je ne sais pas si tu as vu l'émission, c'est excellent parce que tu en parlais, on en parlait déjà, je crois, il y a 15 jours. Hein, alors après, on aime, on n'aime pas le personnage Hugo Clément sur le front, qui parlait justement de ces, vous trouvez ça sur France.tv, qui parlait justement des sols, et c'est exactement ce que tu disais, avec plusieurs expériences. On a vu, hein, vous allez voir sur YouTube, il y a plein d'expériences qui font un test entre un sol, effectivement.
Oui.
Bourré d'humus, sa capacité d'absorption, sa capacité aussi à se liquéfier d'une certaine manière. Je crois que c'était une ingénieure de l'INRAE qui fait quand même référence, hein, on va dire clairement. On a en tout cas le sentiment que la chose avance, peut-être pas assez vite, évidemment, parce que je crois que c'est un siècle, un centimètre, hein, c'est un siècle, c'est ça, pour refaire un centimètre de sol. Donc c'est vrai qu'il y a des techniques, il y a aujourd'hui de l'ingénierie agronome qui existe aussi, et des techniques, je parle notamment avec tous ces couverts, etc., hein, qui permettent d'eux, mais c'est vrai que les dernières années, on a plus considéré le sol comme un support que un sol vivant, d'une certaine manière, et revoyez un petit peu ce magazine, si ça vous intéresse, ça dure 50 minutes, hein, c'est très bien fait, et avec de nombreux exemples, les mêmes exemples que vous trouvez un peu à gauche, à droite, hein, où on voit que en fait, une prairie va retenir beaucoup plus qu'un champ qui est totalement nu, mais ça avance. Et ce qui est intéressant aussi dans ce reportage, c'est qu'on voit dans ce magazine, c'est qu'on voit, c'est pas forcément seulement des bio, des agriculteurs bio qui se mettent à l'agriculture de conservation des sols. T'en parles
souvent,
Eric.
Bien sûr.
Il y a aussi toute une partie des conventionnels, mais qui utilisent encore des pesticides. Après, mais qui ont compris que le sol, finalement, c'est un peu la base. Et tout est en train de se barrer.
De toute façon, ce qui est bien, c'est que l'agroécologie, qu'on n'arrête pas de parler, on n'a pas dit bio, on n'a pas dit agriculture biologique. Hein. L'agroécologie, dans un premier temps, c'est pas forcément. On peut encore utiliser de pesticides, mais après, quand on comprend mieux son environnement et compagnie, on diminue les doses. Et puis, une fois qu'on a diminué les doses, peut-être qu'on s'en passe. Donc, c'est ça l'intérêt. Et je veux dire, aujourd'hui, il ne faut pas dire que c'est une fatalité, hein, quand on voit tous ces coulées de boue et compagnie. Quand on a des gens qui disent « moi, ça fait 50 ans que je suis là, j'en ai jamais vu », voilà, les gens ils disent pas ça parce qu'ils sont en face d'une caméra de télévision. Hein. Ils disent ça parce que, franchement, parce que…
Quand on bon, il y a deux phénomènes. Il y a eu un accroissement des orages stationnaires, par exemple, là où on n'avait pas forcément, on n'avait peut-être pas forcément ce genre de choses aussi fréquemment. Et après, il y a bien sûr la dégradation des sols. On le sait très bien. Je veux dire, quand tu es en coteau et quand tu es dans les vignes, tu vois très bien que… Alors, nous, en Alsace, on a pas trop à se plaindre. Je parle pas des coulées de boue, je parle des sols où aujourd'hui, il n'y a quasiment plus beaucoup de parcelles qui sont complètement, j'appelle ça en nu intégrale, où vous avez désherbage total. Aujourd'hui, il y a au minima un rang sur deux qui est enherbé avec une gestion du couvert végétal qui permet quand même de réduire, de ralentir. Mmh. Et c'est vrai que là, on est en Alsace, on a bien sûr… les collines sous-vosgiennes, hein, sur lesquelles sont plantées les vignes, il y a un vrai problème aussi là au niveau de l'écoulement de l'écoulement des eaux. Eric.
Voilà.
Et on imagine bien sûr dans ces grandes plaines, hein, je pense en Champagne, je pense dans le bassin parisien, dans le Loiret, on imagine aussi quand vous avez des champs, des hectares et des hectares qui sont bien sûr nus et qui restent nus, il y a en plus plus du tout de haies par la suite. Le schéma il est tout tracé quoi, on est d'accord. Bien Eric, on va refermer
mais tout ça c'est on prend souvent des modèles, je veux dire voilà, vous jardiniers et jardinières, ne participez pas à cette méconnaissance, hein, voilà, vous êtes maintenant, on essaye nous de vous informer, voilà, le but du jeu c'est pas de critiquer les agriculteurs, c'est pas du tout ça. Mais surtout, vous ne faites pas des pratiques qui rendent vos sols complètement nus. Hein. Mais gardez votre style, mais pas de sol nu. Voilà.
Bien, jamais, jamais, jamais. Et puis après, alors ça se gère juste, hein, on va prolonger ta réflexion, Eric. Ça se gère aussi, le couvert végétal, puisque là, on disait, il y en a plein qui ont passé la tondeuse aussi, parce que le sol que tu laisses un peu vivant avec ces mauvaises herbes, il a tellement plu, il a fait chaud. Donc, on se retrouve avec des prairies à la place du futur potager. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser monter hein, à 2 mètres.
Non, on a
le droit de passer la tondeuse, on a le droit de passer la débroussailleuse. On a le droit de gérer, de piloter justement ce couvert pour éviter d'être enseveli aussi. On est d'accord, Eric.
Tout à fait.
Le tempo au jardin, on s'aime fort puisqu'on est en lune ascendante, favorable au semis, Eric.
Tout à fait. Donc là, on y va. Là, on continue si on peut, globalement. Si on ne peut pas le faire en pleine terre, on peut le faire en godet, en pot, en jardinière. Mais faites quelque chose.
oui, bougez-vous.
Voilà. Mais par contre, choisissez la meilleure solution. Et surtout, quand on sème en pleine terre, on a tendance à en mettre de trop des graines. Mais alors, dans des godets, dans des jardinières, là, on en met 100 fois trop, quoi. Alors, ce que je vous propose, c'est vraiment de diviser votre paquet de graines en mettant dans un paquet de graines vierges et d'en mettre très peu pour utiliser le moins possible. Parce que là, si vous en mettez beaucoup, le résultat va être très performant au début parce que tout va lever, parce que vous allez mettre un bon sol, un sol qui sera moelleux, un sol qui sera souvent arrosé parce que vous porterez plus d'attention. Mais par contre, il y aura tellement de plantes qui sont l'une à côté de l'autre et s'il manque un peu de lumière, tout va être forcé et tout sera acheté. Donc, je vous invite fortement à mettre très peu de graines, même si vous mettez 15-20 graines de salade dans votre jardinière, 15-20 graines, sachant que souvent, vous avez des taux de germination qui avoisinent les 90-100. Ça suffit largement pour faire le prochain. Quitte à avoir plusieurs jardinières et utiliser plusieurs jardinières, faites-le comme ça.
Et une semaine, on décale chaque fois. Hein. Une semaine, on ressème en fait une semaine ou 15 jours, comme les radis.
Si vous mettez 15 graines de salade et vous mettez une dizaine, 10-12 radis, vous avez une botte de radis et puis des salades. Hein, voilà.
Bien. Ensuite, on va pouvoir semer en fonction, de la qualité de son sol et surtout de la qualité de l'état.
Là, on peut
de son
tout
sol.
Semer. On peut tout semer.
Voilà. On peut semer, mais plaque de semis jardinière ou godet, plutôt. On va parler de la courgette dans un instant parce que je suis sûr que ceux qui nous écoutent, il va bien y avoir, alors tout le monde, hein, il va y avoir du rattrapage parce que le froid, même en serre, finalement, hein, on a l'effet dentifrice hein, sur la graine, Eric. Hein, c'est un peu le risque quand ça ne sèche pas et quand c'est très mouillé. Donc on va en parler dans un instant. Tu disais, on peut tout semer, c'est-à-dire les choux, les cucurbitacées, on va en parler dans un instant.
Voilà, tout le, alors bien sûr, alors quand on dit tout, bien sûr, les tomates, c'est un peu trop tard. Hein, voilà.
Ouais, aubergines, poivrons aussi, hein, on va tout de suite le dire.
Oui, complètement. Par contre, si vous avez des semis spontanés de tomates, ou à des endroits où vous aviez des pieds de tomates sous la serre et vous voyez des trucs levés, même si c'est tout petit, laissez faire parce que ça va pousser très très rapidement.
Donc ça, on laisse. Quitte à le déplanter, c'est ça ?
Quitte à le déplanter, voilà. Okay. Surtout tout ce qui va se semer tout seul là, sous la serre, laissez-le, même si c'est des pieds de tomates, ouais. Même si c'est des piments, des poivrons, laissez-le. Parce que comme ça a germé parce que ça le voulait bien, là, il faut en profiter parce que vous pouvez, par exemple, sur des pieds de tomates, rattraper. Et là, c'est là que souvent, on voit qu'est le vrai pied de tomate. Qui pousse naturellement, c'est-à-dire avec un pied qui est bien violet, avec plein de poils dessus. C'est pas le mien, mais le truc, c'est voilà,
c'est quoi ce truc.
Donc ça, c'est okay. Voilà, vous verrez, et ça grossit le pied s'épaissit bien et ça va pousser très vite. Hein. Mmh. Voilà. Surtout donc, par oui, exemple les tomates cerises.
De toute façon, Eric, tu fais partie du club oui au semis spontané, quel qu'il
ouais.
soit.
Ouais, quel qu'il soit.
Et laissez monter le poireau en graines aussi.
Oui, voilà, laissez les blettes monter, laissez les oignons monter, laissez tout monter. Hein.
Dans un jardin idéal, pour toi, il faudrait un truc qui monte par espèce.
Alors moi, je dirais même, je ferais être un peu plus dur, c'est par espèce, le si plus vous beau. Avez un moment des légumes, vous laissez tout monter. Et par contre, vous en gardez un ou deux où vous mettez un piquet pour dire c'est celui-là que je veux. D'ailleurs, je donne un exemple de ma voisine d'origine turque qui m'a dit voilà, moi, cette blette-là, elle me rappelle ma blette de mon pays. Voilà. Mm-hmm. Donc, elle a été me montrée dans mon jardin et donc j'ai mis un piquet avec son nom. Celui-là, j'y touche pas et je vais le laisser monter en graines et je lui donnerai les graines. Voilà. Et les autres, je les laisse pousser tant que je n'ai pas besoin du jardin. Et peut-être okay. que bah, ça va monter en graines, tant pis, et ça va se ressemer si je n'ai pas besoin du jardin tout de suite. Mais en tout cas, je laisse faire. Par exemple, les engrais verts. Parce que les engrais verts, cette année, j'ai utilisé des vieux graines, des vieilles graines de radis noir ou de radis rose, de radis rouge, voilà, même un peu de navet. Je les ai pris en engrais verts. Bon, c'était un peu du gâchis, parce que quand je vois le taux de germination, j'aurais mieux fait de...
En gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que les vieux sachets de graines, au lieu de les jeter,
ouais.
J'ai fait ça ce matin, mince, en fait, je vais les ressortir de la poubelle, ouais. On les laisse dans un endroit et puis ça vient, ouais, ça
exactement,
vient, ça vient,
voilà.
Pas tant pis.
Voilà, ouais. En fait, et notamment si c'est des crucifères, donc les brassicacées, ben voilà, vous faites un test de germination avant pour savoir si ça n'a pas relevé, mais sinon vous les gardez, et moi là j'ai par exemple un engrais vert qui fait 80 cm de haut, qui est blanc ou qui est jaune, en fonction de si c'est des radis noirs ou des radis violets, et quand vous avez des fleurs zones, des fois c'est plutôt des navets boules d'or, et ça c'est super parce que par exemple j'ai ma compagne qui est passée, bah, on a récolté les hautes tiges, hein, qui étaient les tiges les plus molles, et celles-ci sont très mangeables, hein, ça assaisonne une salade, c'est vraiment super. Donc voilà, et ça vous fait un engrais vert super avec un taux un taux de plant d'adventice au pied qui est voisin de zéro, quoi.
Oui, parce que ça a occupé le terrain.
Voilà.
C'est ça.
Complètement.
On a occupé le terrain. Donc ne jetez pas vos vieux sachets de graines, mais parsemez-les d'une. Ici ou là. C'est bien le sujet et l'idée, en tout cas. D'Eric, aujourd'hui, allez, on a fait le tour au tempo au jardin. Alors, bien sûr, on continue à semer, hein, les capucines, les œillets d'Inde.
Oui,
etc.
Alors bien sûr, pour les haricots verts, haricots rames.
C'est trop froid.
Attendez, voilà, dans le sud, pourquoi pas. Mais
enfin,
dans
chez
le nord,
nous, c'est pas la peine, Eric. C'est trop
voilà,
froid.
C'est après les saints de glace. Hein, parce que là, ouais. alors là, avec les baisses de température, un sol qui descend en dessous de 12 degrés, 13 degrés,
ouais, ça, pourrit,
ça va
quoi.
Germer, mais ça va tout de suite pourrir.
On est d'accord, donc attention aussi. Est-ce qu'on passerait pas aux questions et réponses?
Oui,
de nos
c'est parfait.
On va en parler. Alors, bien sûr, ils nous ont écrit sur la nouvelle adresse onsemefort@monjardinbio.com. onsemefort@monjardinbio.com. Tiens, petit clin d'œil à Raphaël, du coup, hein, qui nous avait grondé, qui nous avait dit j'inaugure la nouvelle adresse mail. Merci pour cet épisode encore une fois passionnant. Ça fait toujours tout drôle d'être mentionné. Amusez-vous bien, signé Raphaël. Voilà, Raphaël, bah, merci en tout cas pour le message. Allez, on va continuer et on va commencer, pardon. C'est questions-réponses sur onsemefort@monjardinbio.com par Alex de Bretagne qui nous dit bonjour le duo de choc, merci pour le lien que vous avez créé entre jardinier et les réflexions que ça engendre. J'ai une question relative aux fruitiers grimpants type kiwi et vigne installés dans des arbres. Est-ce que ça marche vraiment? Je veux dire, est-ce que l'ombre de l'arbre va pas empêcher la maturation des fruits, la grimpante, ou est-ce que la concurrence des racines va empêcher la grimpante d'avoir assez de miam et d'eau? Du coup, faut-il tailler de façon particulière? Y a-t-il des arbres supports à favoriser? Comment créer le support horizontal accroché à l'arbre support? En fait, j'aimerais faire grimper dans des arbres vignes et kiwis, mais j'ai peur que le résultat soit décevant. J'ai essayé de la vigne à grimper dans un cerisier, des châtaignes trognées et du kiwi dans des chênes morts. Mais pour l'instant, après 3 ans de plantation, pas de fruits à l'horizon. Merci pour votre partage. Si vous avez des expériences en la matière, signé Alex.
Bah justement, l'exemple que prend Alex, voilà, l'idéal, c'est l'arbre mort.
Oui.
Parce qu'il ne faut pas oublier que si vous avez un arbre isolé, c'est comme le principe du lierre, le lierre grimpant. Si vous avez un arbre qui est, je veux dire, seul et isolé, le problème, par exemple, un pommier qui est en pleine possession de ses moyens, si vous laissez monter un kiwi dedans ou une vigne, ça va l'envelopper, quoi. Parce que là, il y aura une trop forte concurrence, entre la vigne et le kiwi qui va essayer de placer en position idéale ses fleurs et ça va être au détriment du pommier, quoi. Si ça, voilà, par exemple, j'ai un vieux pommier dans un jardin partagé, j'ai un vieux pommier, un vieux cerisier. Ce que j'ai demandé, c'est simplement on a identifié des zones pour diminuer la ramure morte du pommier, pour qu'il soit moins, qu'il y ait moins de prise au vent. Et puis on va laisser grimper dedans. Il y a un kiwi qui est dû au pied, et ainsi de suite. Et là, ça pose pas de problème parce que là, ça va servir à support simplement, quoi.
Ouais.
Le problème de la vigne, si la vigne est par exemple sur des arbrisseaux, sur une haie champêtre, pourquoi pas. Mais il faudra essayer de la conduire de manière que ça étouffe pas, parce que la vigne va prendre le dessus pour essayer de mettre en position idéale ses fleurs. Voilà. N'oubliez pas que la vigne, si vous achetez une vigne simple, elle a été sélectionnée pour qu'elle soit ramassée au niveau de la quantité de branches, de rameaux, pour avoir des grosses grappes. Dès que vous allez laisser étaler votre vigne, vous aurez des petites grappes.
Donc en résumé, oui à l'arbre mort.
Oui.
L'arbre vivant, c'est pas la peine, Eric.
Bah, c'est un peu compliqué. Voilà.
Ouais. À cause de la concurrence spatiale, mais aussi.
Pas racinaire. C'est pas le racinaire, c'est plutôt. Parce que ça sera pas dans le même niveau de strate pour manger.
Oui.
Mais par contre, c'est l'eau, parce que là, il y en a un qui va essayer de prendre toute la lumière, notamment si c'est un kiwi. Le kiwi qui n'est pas forcément de nos latitudes. Bien sûr, un kiwi qui va être avec des arbres qui sont immenses, il n'y aura jamais de compétition parce que l'arbre sera toujours plus grand. Mais est-ce que ça sera des kiwis horticoles? Ça va être un peu comme la carotte sauvage et la carotte à manger. Les carottes sauvages, ils ont toute leur position, ils ont toute leur, place pour pousser, mais il n'y a rien à bouffer au pied, quoi. Hein, Et si vous mélangez des carottes sauvages et des carottes normales, la carotte sauvage va prendre le dessus parce qu'elle va prendre plus de volume aérien, quoi.
Donc on est d'accord, oui à l'arbre mort. Alex nous disait comment créer le support horizontal accroché à l'arbre au support. On en parlait la semaine dernière. Quelque chose de très résistant. Hein. On évite le bambou, voilà. Ça ne tiendra pas.
Bah, complètement.
Vraiment de la ferraille.
Ouais, c'est ça, complètement. Là, l'intérêt, c'est vraiment de recréer. De toute façon, là, on en a déjà discuté, même pour de l'aménagement urbain. Moi, je suis vraiment pour les plantes grimpantes, hein, qu'elles soient fruitières ou pas fruitières, hein, n'importe. Mais par contre, de l'utiliser sur de la ferraille, de manière sur des structures, sur des fois des structures qui sont démontées ici et là. Et ça va beaucoup plus vite au niveau pousse qu'un arbre et compagnie. Je ne dis pas que l'arbre n'est pas important, hein, mais quand il y a une notion de temps et de rafraîchir tout de suite, la plante grimpante, c'est quand même le top, quoi.
Bien. Donc, en tout cas, si on résume, de la ferraille, un arbre mort, comme ça, il n'y a pas de concurrence.
Voilà.
Et puis voilà.
Bah, et on sait très bien, par contre, que l'arbre mort, il est éphémère aussi. Hein.
Oui, il ne va pas tenir. Oui, parce que derrière, il faut quand même une structure. Et le kiwi ne va pas s'auto-tutorer.
Non, ça, c'est clair.
On est d'accord. La vigne, oui, d'une certaine manière, ça dépend encore une fois.
Ouais.
Mais pas non plus sur 3 mètres de haut.
Il faut accepter le côté éphémère. Quand on a un grand jardin, ça pose pas de problème. Mais c'est un petit jardin.
Bien sûr.
Et on a mis tout son aménagement sur les dizaines de mètres carrés qu'on a avec un arbre mort. Il est clair qu'à un moment, cet arbre mort, il va être au sol.
Bien. Et ben, parfait. On va passer à Gaël qui nous dit merci. Pour votre émission que j'écoute régulièrement, presque chaque semaine, non pas dans la voiture, car je n'en ai pas, mais dans les oreilles le samedi matin en faisant le ménage. Ça rend la corvée plus agréable. Alors j'aurais deux questions qui me turlupinent depuis quelques semaines. Je vis un petit immeuble en copropriété en Île-de-France. Avec les voisins, nous gérons déjà notre jardin en commun et nous souhaiterions investir la toiture terrasse. Cette terrasse est située plein vent, plein soleil, à une hauteur d'une dizaine de mètres, c'est au troisième étage. En plus d'apporter du confort pour en profiter, un ombrage du sol, du toit de terrasse permettrait peut-être d'améliorer le confort thermique du logement situé en dessous en été. Nous pensons donc à faire une pergola végétale, a priori caduque, pour couper le vent et protéger du soleil en été. Je n'arrive pas à savoir quel type de grimpante serait adapté. À savoir, nous n'avons pas encore de solution d'arrosage, mis à part à monter avec un arrosoir. J'ai deux jeunes climatiques qui ont fait les frais de la gourmandise des limaces. Tous les bourgeons ont été dévorés. Alors, y a-t-il un espoir qu'elles redémarrent plus tard ou dois-je envisager de les remplacer ? Pour les petits pois, j'ai déclaré forfait cette année. Concernant les limaces, justement, je me replonge dans un livre que j'avais découvert il y a quelques années, bien fait, je trouve, mais dont j'ai oublié les principes d'action. Il s'appelle « Je fais fuir les limaces et les escargots » de Solfi May, mais par rapport à la proposition de piège à bière évoquée la semaine dernière par un auditeur, cette méthode n'y est pas conseillée, car en plus d'attirer toutes les limaces du quartier, les quelques prédateurs de limaces qui sont toujours là, dont le hérisson, peuvent également pâtir de cet excès d'alcool s'ils les mangent.
C'est ça.
Éric, c'est ta ligne depuis très longtemps d'ailleurs.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que quand on met des pièges, globalement, il faut être toujours en veille.
C'est-à-dire les surveiller régulièrement.
Regarder les indices, regarder les traces.
Bon, après, le hérisson bourré, parce que les limaces sont imbibées à la bière, c'est peut-être pas forcément. Enfin, ça, c'est compliqué à contrôler.
Oui, c'est tout à fait. Mais voilà, après, il y a forcément des petits pots cassés, je dis toujours, en étant le meilleur des jardiniers ou des jardinières. Mais il faut toujours vérifier. Le hérisson, il va se montrer. Donc ça, on va se dire, de toute façon, s'il y a un hérisson, il n'y aura pas trop de limaces. Faut se dire ça, faut favoriser le crapaud. Donc c'est toujours un mélange. Moi, je le dis toujours sur l'antenne. J'utilise de l'anti-limace dans un godet. De toute façon, j'en parlerai dans la partie courgette. Parce que quand on n'est pas présent à 100% dans son jardin, c'est un peu compliqué. Voilà, la limace... Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a un acteur supplémentaire qui n'était pas aussi important qu'avant, selon mes observations et les retours que j'ai des jardiniers et jardinières, c'est l'escargot.
Oui, qui est aussi vorace.
Parce qu'il ne faut pas oublier que la limace a un fort développement. Et c'est vrai qu'à un moment, arrivé le mois d'avril, on était tranquille. Après, avril, début mai, après, c'était tranquille parce que les températures commençaient à s'assécher. Mais le problème, c'est que là, au mois de mai, quand on voit la végétation, il ne faut pas oublier que toute eau qui va tomber maintenant, on l'a déjà dit, fin avril, début mai, ne va pas servir à alimenter le sol, mais va servir à alimenter les végétaux qui poussent.
Ouais.
Donc ça veut dire que ça va être des végétaux qui vont surpousser. Comme ils surpoussent, ils vont plus pousser pour que chacun puisse prendre la dominance pour se mettre en position idéale ses fleurs. Donc, la plante va surpousser, ne va pas se protéger contre les escargots, les limaces qui sont là très en attente de ce qui va se manger.
Je reviens sur le toit terrasse de Gaël.
Oui. Le problème, moi, la toit terrasse, il faut toujours savoir qu'est-ce qu'il y a au sol pour pouvoir faire pousser les choses. Le support, ça ne pose pas de problème.
Là, a priori, rien. Je pense qu'ils vont monter des bacs, logiquement.
Je ne sais pas, peut-être qu'ils veulent faire une pergola.
C'était l'idée.
C'est une bonne idée, mais par contre, il faut des...
Une pergola végétale, a priori caduque pour couper vent et protéger du soleil.
Mais si on veut mettre des végétaux dessus, il faut qu'il y ait de la quantité de terre hyper importante. Et les seules plantes qui peuvent fonctionner, c'est que les plantes grimpantes pour avoir une quantité de sol moins importante. Mais par contre, il faut des bacs et des bacs. Donc, il faut bien se renseigner sur la capacité au niveau du poids.
C'est ça là où j'allais en venir, parce que évidemment, un toit terrasse, et c'est la question avec les piscines, les spas et tout ça qui peuvent se mettre sur les toits terrasses, sur les fameux, ce qu'on appelle maintenant les rooftops, n'est-ce pas, Eric? Il faut faire attention aussi, bien sûr, bien évidemment, par rapport à cela, parce que là, c'est plus des contraintes techniques, et il faut demander un maçon, concrètement, un professionnel du bâtiment.
Si c'est le passage une ou deux personnes comme ça, à chaque fois qu'on fait un pas supplémentaire, le poids est déporté, alors que si on a des masses qui sont là pendant des jours et des semaines et des années
et qui se gonflent de flotte quand il pleut,
à 10 kilos près, ça va tomber donc là il faut vraiment bien se renseigner, parce que là il faut au moins 60 cm de hauteur de terre dans les bacs et les bacs les plus larges possibles.
Et on va rappeler, juste un principe, Eric, pardon, je te coupe, mais un terreau, globalement, un terreau, 40 litres de terreau, ça fait entre 15 et 20 kilos.
Ouais.
40 litres, 40 litres, c'est un sac. Imaginez le nombre de sacs qu'il faut, le nombre de sacs qu'il faut transborder, qu'il faut ramener, et ensuite, ce poids, comme tu le disais, c'est un endroit, ça ne se déplace pas, ça reste. Et quand il pleut, forcément, le terreau absorbant l'eau, bah forcément ça se gonfle et c'est encore plus lourd. Donc voilà. Là, il faut vraiment faire attention aussi à ce point.
Voilà, c'est ça. Et puis souvent, sur ces petites espèces de no man's land qu'il y a des fois entre deux bâtiments, voilà, ça fait des fois c'est l'entrée. Ne pas oublier aussi que si on a un bac, il faut qu'il y ait une évacuation d'eau de ce bac.
Pour pas oui, que ça fasse parce que sinon, c'est piscine et pas toujours. Et marécage,
voilà.
Du coup.
Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien étudier le coût, mais c'est surtout le poids qui me paraît le plus important. Donc, voilà. Et puis, bah, parce qu'il faut de la terre. Et puis après, bien sûr, les clématites, c'est quand même super intéressant. Et je, voilà, ce que j'invite l'auditrice, c'est... Voilà, si elle ne peut pas être là souvent et à vérifier, et la limace et l'escargot est très efficace parce qu'il le fait quand la personne dort en principe. Donc mettez un peu de fer à molle dans un premier temps, ça fera déjà une belle lutte. Ou un mélange au moins en surface de sable et de cendre et un peu de coquille pour éviter le déplacement. Mais
la clématite, bonne idée.
Pour
la pergola,
oui,
voilà. Faut d'abord regarder
voilà.
En termes
mais
de
la clématite, c'est pas ça forcément que ça va faire une clématite horticole, c'est pas ça qui va faire forcément de l'ombre. Donc un petit une canisse par exemple avec la clématite qui fait la déco, c'est pas mal.
Ouais, et puis après il y a le kiwi, on en parlait
oui,
il y a
un instant. Oui, plutôt le kiwi, voilà parce que
kiwi
ça,
kiwi
vraiment,
ouais.
Voilà. Et puis bon comme dit le kiwi ça manquera un peu de terre profonde mais voilà, moi j'irais plutôt sur des variétés qui sont voilà qui sont pas très très grandes de manière que le système racinal ne le soit pas. Donc ouais. Kiwi, c'est quand même pratique.
Bien, en tout cas voilà les conseils Gaël, mais avant toute chose, renseignez-vous sur la portance.
Ouais, ça c'est primordial.
Ça c'est primordial parce que voilà, faut pas faire n'importe quoi non plus et en copro s'il faut tout refaire, c'est un peu ça coûte un peu.
Parce que même les toits végétalisés, pourtant il y a pas de passage. Il y a très peu de terre, il y a des moments, c'est impossible à faire. Quoi.
Bien sûr, parce que ce n'est pas conçu pour.
Ouais,
hein,
voilà.
On va le rappeler. Bien, après, pour l'arrosage, hein, il y a plein de solutions aussi.
Oui, l'arrosage, ça ne pose pas de problème, voilà. Parce que si on prend l'ensemble des habitants d'une copro qui en profite, bah, tous les eaux de rinçage, hein, si vous mettez à 60 ou 80% de l'eau de rinçage de vos légumes et compagnie, voire même de votre vaisselle, hein, si vous faites des fois le fait de mettre très peu ou pas de liquide vaisselle dedans, bah, vous pouvez utiliser cette eau, hein, donc à mon avis, il n'y a pas trop de problème.
Bien, on va passer à la question suivante qui est, Stéphane qui nous a parlé de son tilleul d'Henri, Eric.
Ouais. On avait une question la semaine dernière là-dessus.
Mais je crois que c'était celui-là en fait. Donc voilà, c'était juste pour vous dire parce qu'il nous a renvoyé la même question. Il nous a renvoyé la même question. Et il nous disait, mais en fait, quand on a repris la question, vu qu'on a enregistré un petit peu plus tôt, on avait déjà répondu. Et il m'a envoyé le mail juste après.
Ouais.
Et il disait juste ma question de la semaine dernière, si vous voulez pas avoir la mort de mon tilleul Henri sur la conscience. C'est pour ça que je voulais reprendre la question de Stéphane.
Non, mais alors, pour rappeler ça, c'est que c'était les arbres que quand on regarde sur les catalogues ou sur l'information internet, qui est quand même des fois maintenant de plus en plus bien faite. Dès qu'on a un arbre qui doit faire plusieurs dizaines de mètres de haut, c'est très compliqué de les mettre dans un endroit un peu trop confiné. Ils ont besoin d'avoir un développement racinaire. Et souvent, quand les pousses commencent à se restreindre, à jaunir et compagnie, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une espèce de chignon qui se forme au niveau des racines. Et il n'en peut plus, quoi. Un peu comme les tomates. Hein. D'ailleurs, on va avoir une question sur les tomates après, parce que je l'ai lu avant.
Et on en parlera justement.
Et ça sera le même système.
Blague à part, nous dit Stéphane, merci, continue à partager autant de contenu sans pub et je préfère un son qui déraille quand Eric s'enflamme sur la biodiversité que des interruptions publicitaires toutes les 3 minutes. Voilà, ça c'est dit. Alors, Nicolas Cherbourg dans la Manche, bonjour, on s'aime fort, merci pour votre podcast que j'écoute depuis longtemps, même si je rate quelques émissions qui m'apprend beaucoup, ça me motive à essayer de nouvelles choses. J'ai un terrain d'un peu plus de 2 hectares avec du dénivelé sur lequel j'ai un cheval et une ânesse. J'ai prévu d'en dédier une partie à une forêt-jardin.
Ouais.
Je manque de temps pour m'en occuper, mais j'ai commencé par planter des plus grands arbres depuis maintenant 4 ans.
Ouais.
J'ai notamment planté 2 noyers du Japon qui se développent correctement. Ils font maintenant environ ma taille. Mais l'un d'entre eux a développé une fourche qui part à environ 40 cm du sol. Sûrement une mauvaise gestion de ma part. Je me demande s'il vaut mieux le laisser comme ça ou couper la branche qui paraît la plus faible, sachant qu'elles sont plutôt bien équilibrées. Merci pour vos lumières et merci de continuer ce bel effort que vous mettez à notre disposition. Bien à vous, signé Nicolas.
Bah, le principe du noyer, je mettrai tous les noyers dans le même sac. L'objectif, quand on plantait du noyer, c'est pour ça que souvent on parle souvent d'une gestion du tronc vraiment supérieure pour les noyers, c'est parce qu'on vendait le fût.
Oui.
Et c'est pour ça que les noyers ne sont pas des hautes tiges, mais des super hautes tiges, hein, de manière qu'on ait le fût le plus haut, parce qu'il y a une partie basse et une partie haute qui était coupée, et on vendait le bois. Hein. Il y avait les noix, et c'est pour ça que ça mettait du temps à avoir des noix, parce qu'on avait un arbre qui était hyper vigoureux, mais c'était pour vendre le fût. Moi, l'auditeur, là, ou l'auditeur, je lui laisserai, bah, les, si la fourche est bien équilibrée, laissez-le. Hein.
Donc, il n'y a pas de... Voilà. Même si c'est en fourche, c'est pas grave.
De toute façon, dans la nature, quand des fois un arbre est brouté voilà, par un grand mammifère, bah, des fois, les séparations se font en deux ou en trois. Des fois, c'est parce qu'il y a un espèce de recépage, je dirais, de mammifère. Quoi.
Donc, rien de grave.
Non.
Dans l'idée.
Non, non.
C'est ça. Bon.
On serait en plein milieu d'une rue. Bon.
Oui.
Voilà, il y a aussi le style, mais là, dans un futur jardin-forêt, il faut laisser faire autant que possible. Tant qu'il n'y a pas de dangerosité, il faut laisser faire.
Bien. Alors, j'ai eu Julie qui nous a envoyé un petit mail sur les fleurs comestibles en réponse à l'auditrice qui posait la question des fleurs comestibles la semaine dernière. Je me permets de rajouter la liste de fleurs que je consomme étant une fan de fleurs. Comestibles, capucine, pétale d'odu, et blanc du goyavier du Brésil. Et mérocal, fleur de l'ail des ours et eye tricket, sauge des prés, mauve, fleur de la ciboulette, un régal en salade, la fleur du romarin, attention c'est fort, la bourrache, la fleur de glycine en petite dose, la violette, la fleur du sureau cuite dans des desserts en infusion, le bleuet, le cosmos, les pétales de rosier de Damas pour les desserts. Et à cela je rajoute les fleurs comestibles en infusion, mais la liste est trop longue. Alors petite idée de dessert, sablé à la fleur de sureau sur lequel on dépose avant cuisson une fleur, la marguerite, du pétale de coquelicot, du souci. Recette de site, plante sauvage comestible, le résultat est très beau et très bon. Et pour les légumes perpétuels qu'on adore aussi à la maison, je rajouterai la poire de terre, la chayotte et tous les tubercules qu'on replante d'une année sur l'autre, les ocas du Pérou, la pomme de terre, la patate douce, le topinambour, les liantis et les légumes qui se ressèment tous seuls comme la blette, je le disais, Eric, la semaine dernière. Du coup, la liste est longue, sans trop d'efforts, et finalement, c'est de la nourriture à moindre coût et à moindre coût de temps et d'argent. Et c'est pas si anecdotique, car on peut toujours compter sur eux. Ma réponse est longue, je ne me vexerai pas si vous la partagez pas, ou seulement partiellement. Merci à vous deux. Vous êtes une grande source d'inspiration. Julie, fidèle de Normandie, merci.
Oui, elle a complètement raison. En plus, tout ce qu'elle a cité, c'est des plantes que si elles ne poussent pas, c'est que vous n'avez pas de chance.
Oui, parce que c'est la culture est très facile, on est d'accord.
Ouais, la culture, les amérocales, c'est d'une simplicité, d'une beauté, d'une capacité. Tiens, pour ceux qui n'aiment pas avoir des plantes indésirables qui poussent en bordure, qui met des amérocales, il n'y a plus rien qui pousse après. Hein.
Bon, on va passer à Virginie, Eric, qui nous parle justement, quelle fut ne pas ma joie en découvrant votre dossier sur les légumes perpétuels, alors que je viens juste d'acheter des épinards du Caucase, des pois perpétuels, des haricots d'Espagne, mais me voilà. Donc officiellement la plus bobo de vos auditeurs, néanmoins ravi de voir se développer ces magnifiques plantes dans mon jardin. L'aspect gourmand en plus. Alors on va juste, parce que ça a beaucoup fait parler, mais je sais que le mot bobo, il est...
Ouais.
Bon voilà, on n'a rien contre...
Non mais bien sûr, on a toujours un peu de bobo en soi, hein, moi je dirais.
Oui, non mais c'est juste que des fois, comment dire, il y a des choses qui sont très, très commerciaux. Et il y en a certains qui surfent sur la chose en vendant un truc qui en vaut 4 euros. C'est tout, c'est juste ça.
Oui.
C'est par rapport à ça. Bon, voilà. Et il y a des effets de mode, des fois, qui font que des produits qui ne valaient pas cher deviennent très chers. Et c'est en ce sens-là qu'on dit bobo. Aujourd'hui, vous prenez un sac de 10 litres de terreau, par exemple, en jardinerie urbaine. Mais le prix, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, c'est tout. C'est juste par rapport à ça. Alors qu'à côté, vous avez un sac de 40 litres, certes, qui est peut-être trop pour l'utilisation. Alors, on va vous dire, oui, mais bon, le 5 litres, le 10 litres, il faut l'empaqueter, c'est le même boulot, il faut de la matière, etc., etc. Voilà, c'est juste par rapport à ça. Bon, elle lance un appel à l'aide pour mes arbres qui font grise mine, un cerisier dont les feuilles du sommet flétrissent et jaunissent, un prunier qui ne porte que quelques feuilles. Je précise qu'il est dans mon potager, donc peut-être trop amendé en azote, qu'il a pris 1,5 mètre l'année dernière et que le pauvre malheureux a fleuri au mois d'octobre dernier à cause de la chaleur. Et les saules qui subissent chaque année des attaques en règle. Il y a 2 ans, Eric m'a dit de rien faire, mais malheureusement, ces petits insectes finissent chaque année par défolier totalement ma jolie haie pour mon plus grand malheur. Auriez-vous une idée ? Je précise pour le contexte que je suis à Bordeaux et qu'on a subi un déluge ininterrompu depuis novembre. Mon sol argileux est plus proche de la mare que du jardin cette année. Un grand merci pour votre aide. Donc je résume, on a le cerisier dont les feuilles du sommet fleurissent, flétrissent et jaunissent.
Bah là, alors, je vais répondre pour les arbres fruitiers d'un seul coup. Donc pour l'arbre fruitier, quand il y a eu une floraison en automne, c'est terminé pour l'année suivante.
Ok.
Donc ça pose problème. Et notamment, il y a peut-être un excès de pousse après, parce que comme l'arbre ne pense plus à faire de la fleur, il va faire de la feuille. Voilà.
Donc prunier et cerisier, c'est ça,
ouais,
en gros.
Voilà. Alors, ouais. Voilà. Alors cerisier, s'il n'a pas fleuri, parce que ça peut être le même cas. Des fois,
c'est les
quand
feuilles,
les,
hein, pardon, c'est pas
les
fleurs,
feuilles qui
les feuilles.
jaunissent des fois à l'extrémité, c'est que peut-être avant ils étaient peut-être un petit peu en boule avant et il y avait une attaque de pucerons noirs.
D'accord.
Voilà. Mais bon,
Donc
ça,
là, c'est pas très grave a
c'est pas
priori,
plus
non?
grave que
Devant.
ça. Voilà,
Ok.
suffit de tirer sur les pousses. Hein, voilà. Alors peut-être l'excès d'azote. Bon, faut savoir que le prunier et le cerisier un peu en dessous, mais il a une pousse qui peut être de 3 mètres dans l'année. Des fois, les nouveaux sur des gros pruniers, par exemple. Donc il faut savoir que le prunier a quand même une capacité à faire des grands rameaux, qu'on appelle souvent des gourmands. Donc ça pose pas plus de problème que ça. Mais c'est vrai que dès qu'il y a floraison et à cause du changement climatique et des coups de stress, le gros problème c'est que bah, on perd des floraisons au printemps.
Bon. Et les saules?
Bah, les saules, alors moi ce que je proposerais quand même là. C'est de faire, là c'est un insecte voilà, qui perturbe un petit peu l'ensemble. Moi je ferais quand même une décoction je dirais, avec une plante du moment, une plante aromatique du moment, par exemple le thym, qui est vraiment bien, et de la sauge, et je ferais une infusion, en espérant que la haie soit pas trop grande, quoi. Et donc là c'est simple, c'est 100 grammes par litre. Et après, on fait une tisane tout simplement, hein, c'est-à-dire qu'on fait frémir de l'eau. Là, il en faut quand même 300 grammes pour 3 litres, hein, parce qu'à mon avis, s'il est grande. Et donc, et après, on laisse infuser. Une fois que c'est refroidi, on fait une pulvérisation. Voilà.
Donc, pulvérisation et pour le reste, bah voilà, si ça a fleuri au mois d'octobre, ça va être compliqué de
Ouais.
refleurir cette année. On a bien compris.
Qu'elle fasse un système avec le. Ouais, peut-être avec du savon noir, mais peut-être de mettre un peu de savon noir dans la préparation. Voilà. Mais c'est
Bon.
vrai qu'il y a certains endroits, les saules, ils sont voilà, mangés par des organismes défoliateurs. Et donc voilà, c'est. Une fois qu'il y a une pression forte à un endroit, c'est compliqué pour l'enlever,
Mais un peu de savon noir, ça peut être voilà quelque
quoi. Ouais.
chose. Ouais, on peut. En tout cas, il y a pas panique là.
Non, il n'y a pas panique, hein, là. Il y a une défoliation parce que bon, comme dit, il y a une pression forte à un endroit, il n'y a pas le prédateur de cet insecte qui est prédateur pour le jardinier. Mais voilà, ça arrive plus qu'on ne croit.
Bien, bonjour les compagnons du potager, nous dit Patrice, c'est toujours aussi instructif de vous écouter. Alors je vous écris à nouveau cette fois pour une petite inquiétude sur mes plants de tomates. Tout se passait bien depuis mes
Ouais.
semis, mais depuis quelques jours, j'observe sur certains que les nervures rougissent et les feuilles se tarrachent. Mes plants sont derrière une baie vitrée plein sud. Voici quelques photos, que se passe-t-il?
Ils en ont marre d'être
Sophie,
derrière la
pardon.
baie. Ils en peuvent plus d'être derrière la baie
Ouais,
vitrée.
elles ont surtout très faim.
Ils ont très faim, le pot est trop petit, et puis même là, ils manquent de lumière par rapport à leur capacité à se développer. Ils vont bientôt aussi, surtout qu'ils laissent fermer les fenêtres parce qu'ils vont se barrer, quoi.
Ouais, en gros, faut repiquer
Ouais, faut repiquer, mais là,
dans
s'il n'y
des
a pas
pots
de
plus
place.
grands.
Ouais,
Mais
mais
bon.
là, qui tourne la tête quand il passe devant? Dans 10 jours, c'est réglé, quoi.
Voilà, faut les planter. En gros, faut les planter. Alors, je sais pas
Ouais,
où vous êtes,
ouais, ouais. Et donc,
Sophie.
là, il faut bien les planter en mettant le maximum, en les plantant un peu couchés. Et je crois c'était la semaine dernière qu'on avait parlé de ça. Non. Quand vous les plantez, faites un trou, pas forcément profond, mais large et plutôt long sur un côté, de manière à coucher votre pied de tomate quand il est trop long. Et surtout, vous ne le relevez pas le bout. Même
Ouais.
si vous avez mis un piquet, il va se relever tout seul.
Pour que la tige fasse des racines
Ouais, il va faire des
et
racines et ça va permettre de lui faire
donner
émettre
du
un peu de
miam.
soin. Voilà, c'est ça. Et puis la tête, elle va se redresser parce qu'elle va chercher la lumière, donc il n'y a pas de souci.
On va rappeler la posologie, c'est en arrosage, en pulvérisation du purin d'ortie jusqu'à la fleur. Et à partir du
Oui,
moment où on a la fleur, on passe sur
voilà.
de la consoude. Ça ne sert plus à rien de mettre de l'ortie si on
Oui,
ne fait
voilà,
que de la
c'est ça,
feuille.
voilà.
Voilà,
Parfait.
donc là-dessus, et ça marche très très bien, de l'ortie, on en a tous au pire chez un
Ouais.
voisin qui veut s'en
Oui, et
débarrasser.
puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a un excès d'ortie, je dirais excès d'ortie à proximité, parce qu'il y a une pousse hyper importante suite aux conditions climatiques, on peut aussi l'utiliser en paillage.
Oui. Et alors, on va aller. Je pense que c'est la question. Je pense, à mon avis, que c'est la question la plus échangée, la plus discutée. Faut-il mettre des orties au fond du trou ?
Si tu veux.
Non, mais tu n'y crois pas, ça ?
Non, De toute façon, c'est par principe, je ne vais pas mettre des plantes qui ont été vivantes tout de suite dans le trou.
Tu n'aimes pas les enterrer vivantes ?
Ouais, c'est ça. Voilà, parce que pour moi, alors si vous avez un sol sableux, moi, je dirais pas de problème.
Oui.
Ça ne pose pas de problème parce que c'est bien aéré dans le sol et compagnie. Si vous avez un sol qui est un peu, compact,
un peu argileux, un peu lourd,
argileux, moi je dirais plutôt, faut pas mieux mettre des plantes à l'intérieur parce que si ça fait cocotte minute, il va y avoir quand même décomposition.
Et ça putréfaction, c'est ça ? C'est un peu peur de ça.
Donc c'est pas le top top.
Bon. Allez, on va terminer par Florent qui nous dit bonjour Brice, bonjour Eric, fidèle auditeur depuis cette année. Je suis très heureux de vous retrouver dans ma voiture le lundi pour aller au travail. Petit mot sur l'aquaponie dont vous aviez parlé le 26-04. Je me suis, il y a 2 ans, embarqué dans la construction d'une installation et je peux vous dire que de mon côté, c'est effectivement pas rentable. Ah, très bien. Mais la construction et faire fonctionner tout ce petit monde ensemble est très intéressant.
Mais voilà, pour moi, voilà, c'est vraiment un, voilà, je dirais toutes les écoles devraient avoir ça.
Ouais, c'est ce que tu disais la semaine dernière.
Ouais, c'est franchement.
On lance d'ailleurs un appel à MyFood hein, s'ils veulent venir juste pour échanger sur le sujet. Oui,
bien sûr.
Aussi sur la question de la rentabilité. Après, encore une fois, Eric, est-ce que le jardin doit être rentable d'une certaine manière ? Et
non.
Je prends juste.
Ouais.
Chacun fait ce qu'il veut avec ses sous aussi. Et alors après, ça dépend. Est-ce que ça doit être rentable ? Mais en même temps, est-ce qu'une grosse voiture est rentable ? Est-ce qu'une piscine est rentable ? Est-ce qu'une terrasse en tech est rentable ? On est d'accord.
Mais il faut simplement, l'intérêt, c'est que dès qu'on va parler technique et technologie surtout, il faut que la personne en face soit avertie.
C'est ça. On est d'accord là-dessus.
Il existe des désherbeurs automatiques. Là, c'est un petit robot. Bon. Voilà, ouais. C'est mieux de pouvoir le faire soi-même. Mais après, s'il y a plein d'intérêts sur le côté technique, je sais pas, les bielles, j'en sais rien, moi je connais rien de tout là-dedans. Il y a le fonctionnement, il y a de la robotisation, ça aussi c'est important aussi de pouvoir échanger, d'inventer des choses. Je me rappelle d'un prix qui avait été gagné par un jeune. Son truc c'était que ça puisse arroser les plantes quand les gens étaient en vacances par smartphone. Alors quand on me parle de ça, moi je peux pas psychologiquement, mais si ça fait que les gens puissent parler, ça puisse faire avancer les choses, qu'il y ait de la recherche, moi je trouve que ça serait, moi je préfère que qu'on mette de l'aquaponie dans une école qu'on laisse crever les plantes
en été. Cela me permet d'avoir quelques cultures demandeuses en eau, concombre, melon, plus longtemps dans la saison quand il fait très chaud. Il est en Gironde. Ma question, j'ai un mirabilier que j'ai récupéré chez un ami il y a 3 ans.
Oui.
La première année, il avait bien repris, j'ai eu des mirabelles. La deuxième année, il a pris le gel, j'ai rien eu. Cette année, il avait beaucoup de fleurs, il n'y a pas eu de gel. Mais maintenant, je vois que les branches, j'ai des branches avec plus aucune feuille, une couleur différente et aucune fleur n'est devenue des fruits. Mmh. Avez-vous une idée de ce que ça pourrait être ? Est-ce que je devrais faire pour ces branches sans feuilles ? Et des conseils sur la taille pour l'année prochaine. Merci d'avance.
Alors, l'auditeur nous a envoyé une petite photo.
Oui.
Alors, il faut savoir que le fait qu'il n'y ait pas eu de... Enfin, que les fleurs n'ont pas eu une bonne pollinisation et ou une fécondation après, ce n'est pas une histoire de gel. Là, c'est peut-être qu'il y a eu un excès de d'eau.
D'accord.
Ça me semble comme ça. Ensuite... comment je dirais, pour être gentil, il faudrait que l'auditeur range son sécateur et qu'il ne le fasse pas juste avant de payer ses impôts. Quoi.
Ah, faut pas qu'il soit énervé, c'est ça ?
Faut pas qu'il soit énervé, parce que là, il n'était pas content.
Ah, il a été taillé un peu...
Il était un peu sec. Hein.
Ouais.
Faut pas oublier qu'un prunier a besoin de pousser. Hein. C'est-à-dire, faut bien identifier chaque charpentière. Et sur chaque charpentière, il doit avoir un axe qu'il faut laisser, une pointe, et il ne faut pas la tailler. Dans un premier temps, il faut laisser pousser. Comme ça, la plante pense aussi qu'il va s'accroître et se développer. Alors l'accroissement, je rappelle, c'est le fait qu'un arbre va grandir. Il va passer du stade jeune au stade mature. Et le développement, c'est que quand il va passer justement du stade jeune au stade mature, ses organes vont se mettre plus ou moins à fruit. Et surtout à fruits, pour pouvoir se reproduire. Et là, le fait de le tailler trop sec, bah, il pense toujours qu'il est jeune. Donc, il pense qu'à faire du bois et ne va pas penser à sa fructification.
Donc, molleux sur le sécateur, c'est un peu
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, là, il va repercer terriblement parce qu'il a une capacité racinaire là qui est super importante. Il a dit, tiens, il m'a titillé l'auditeur. Moi, je vais t'en mettre du bois.
Ouais.
Donc, voilà.
Voilà, Florent. Donc, voilà pour le mirabellier, pas très bien. C'est un petit peu
l'idée. Ouais, il ne faut pas tailler trop quand même. Hein. Ouais. Il faut laisser rentrer en position. Des petits mirabelliers, ça existe, comme dit, naturellement. Mais il sera toujours beaucoup plus grand qu'un pommier. Un pommier nanisant. Aujourd'hui, le pommier a trouvé son porte-greffe nanisant, il n'y a pas de souci. Le poirier, plus ou moins, grâce au cognassier. Mais tout ce qui est prunier, c'est pas encore ça, quoi. Hein. Pour l'instant, il n'existe pas dans la nature des pruniers fortement nanisants qui vont que, quand on va greffer dessus, ça va diminuer la vigueur. Oui, ça va le diminuer par rapport à un porte-greffe, par rapport à un noyau qu'on a semé directement. Mais c'est pas encore ça par rapport aux pommiers où on arrive à avoir des choses qui sont très très basses.
Bien, vous qui nous écoutez, écrivez-nous sur contact @ non n'importe quoi sur onsaimefort@monjardinbio.com onsaimefort@monjardinbio.com. Eric, je te propose de passer au dossier de la semaine.
La courgette facile.
La courgette facile, allez.
Oui, alors c'est surtout le fait pourquoi on en parle en ce moment. C'est pour ceux qui déprimentent parce que leur pousse qui avait déjà alors peut-être les deux premières vraies feuilles. Que je rappelle que quand on fait un semis, on a deux fausses feuilles, et puis après on a les vraies feuilles. Bah peut-être que quand il les a fait au mois d'avril, et puis ça a poussé, là il a fait ça en poker, une température sympa, il les a peut-être assortis un peu trop tôt, et le coup de froid fait que la tige issue de la graine est morte. Voilà, elle s'est ramollie, hop, ça tombe sur le sol.
Effet dentifrice.
Voilà, ça fait
ou bouton d'acné. Hein,
oui, ou ça, carrément, ouais. Après une fois que la pousse a donné, bah, la tige tombe. Voilà. Donc on peut vraiment bien sûr semer en pleine terre, là, courant mai jusqu'en fin juin, des courgettes. Alors tout simplement, il faut trouver le bon endroit. Dans ce bon endroit, après, vous devez décompacter bien le sol à la fourche bêche, à peu près la hauteur d'une bêche ou d'une fourche bêche. On ajoute copieusement du compost, plus ou moins décomposé. Hein. Bon, il ne faut pas que ça soit la dernière banane, la pleure de banane. Hein. Mais un compost de 3 à 4 mois, ça va très très bien aussi. Ensuite, faut bien remuer l'ensemble. Et puis, si on met des courgettes qui sont non coureuses, c'est-à-dire que ça fait un peu des buissons, à partir simplement d'un pied, ben, faudra répéter l'opération tous les mètres. Et si c'est une courgette qui est plutôt coureuse, alors les courgettes coureuses, ça peut être aussi des courges qu'on croit courges, mais en réalité, sont courgettes. Par exemple, la longue de Nice, elle est considérée comme courgette coureuse.
D'accord.
Bien sûr, il faut les manger très tôt, de manière à voir vraiment cette courgette qui est très excellente au goût, très ferme, excellente au goût, mais qui ne fait pas des fruits d'une longueur complètement dingue. Donc, il faut les manger au stade très, très jeune, quand ils sont bien luisantes. C'est ça l'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Au début, on ne paille pas, surtout si on a un terrain qui est rempli de limaces et d'escargots naturellement. Mmh. Alors bien sûr, si on a un terrain où on n'a pas trop de soucis, ça, on a paillé avant, on écarte le paillage et on met directement les graines à l'endroit prévu avec le petit bâton pour pas oublier l'endroit. Mais sinon, ce que je conseille, c'est de semer sans paillage au début, voire même pour protéger de la levée qui va être assez rapide quand le sol va être assez chaud. C'est de mettre un pot en plastique, vous coupez le fond, ou un pot de bibelosquet, ça ne veut rien dire.
Fromage blanc.
De fromage blanc. Voilà, vous coupez le fond et vous vissez à l'endroit où vous avez semé. Vous vissez le pot comme ça et vous laissez à peu près 4 à 5 cm dépasser. Et moi, c'est comme ça que je sauve toutes mes courges et courgettes. Et je mets quelques grains de ferramol dedans, hein, c'est-à-dire de l'anti-limace autorisant l'agriculture biologique. Comme ça, s'il y a une limace qui passe dedans, ben, elle va mourir dedans. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas tout à fait ça, mais moi, c'est ma seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir être à peu près tranquille. Et puis, si vous ne voulez pas mettre ce système en plastique, en sachant que ce plastique, globalement, vous pouvez l'utiliser plusieurs années, à condition qu'à l'automne, vous retiriez bien ce plastique et vous les empilez bien l'un dans l'autre de manière à garder la forme Voilà, et puis vous le remisez à un endroit et puis vous l'utilisez l'année suivante. Hein. Sinon, si vous voulez pas faire ça, à l'endroit où vous avez semé, mettez un mélange de sable avec de la cendre de bois, voire des coquilles d'œufs si c'est possible. Et vous les mettez à l'endroit où ça va germer, comme ça il y aura moins de limaces qui vont aller à cet endroit-là. Bien sûr, il faut renouveler ce cocktail une fois qu'il a plu.
Après une grosse pluie, quoi, bien voilà. Sûr. Ouais.
Et donc tout ce que je vous ai expliqué avant avec le pot et compagnie, vous pouvez le faire aussi avec, bien sûr, les plants que vous avez obtenus, dont vous êtes fier en pot.
Mmh.
Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, qui dit courgette dit un arrosage régulier et copieux.
Ouais.
Il faut éviter de mouiller le feuillage parce que l'ennemi de la courgette
c'est le blanc.
Et des courges, c'est le blanc, hein, l'oïdium. Mmh. Voilà. Ensuite, on va souvent poser la question, est-ce que le paillage est obligatoire ? Oui, mais après. Comme ça, une fois que la courgette est en forme, voilà, elle est solide, bah là, il y a moins de risques de limaces. Bien que s'il fait un temps qui est très humide, il y aura quand même des attaques de limaces, non pas sur feuilles qui sont trop coriaces, mais sur boutons floraux. Voilà. Il y a aussi un paillage qui peut être sympa si vous n'avez pas assez de paillage. C'est qu'une fois que la courgette a une certaine forme, vous prenez un carré de carton et vous coupez jusqu'au centre. Hein, voilà, et comme ça, vous pouvez l'enfiler en dessous. Et puis après, vous mettez sur ce carton un peu de paillage dessus. Comme ça, ça permet de maintenir l'humidité, comme dit. Vous avez le sol qui est propre et ça vous permet d'utiliser moins de paillage. Enfin, bien sûr, un carton qui est neutre. On est bien d'accord. Et ensuite, est-ce qu'il faut les tailler ? Ben non, quand c'est une variété qui est non coureuse. Si elle est coureuse, vous pouvez la tailler, mais c'est pas obligatoire, en taillant 2 à 3, 4 feuilles après suivant le fruit. Voilà. Et on est tranquille.
Alors,
avec la courgette.
Il y a un point aussi, et puis on invite bien sûr ceux qui nous écoutent à aller consulter notre blog, puisque tu nous as fait un tableau.
Ouais, j'ai fait un tableau.
Parce que, contrairement à d'autres légumes, la courge a la mauvaise tendance de faire un peu de consanguinité, c'est ça Eric ?
Ouais, c'est ça.
Et de devenir un peu complètement courge.
C'est
quand
ça.
On essaye de marier en fait différentes espèces. Hmm. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se marier entre eux, c'est
voilà.
Ça.
Voilà. Et surtout qu'il ne faut pas toujours paniquer. Si vous avez une courgette à côté d'un concombre, par exemple, ou d'un melon, il n'y aura pas de mélange si vous récupérez les graines. Mais si
oui.
Vous les récupérez les graines et vous avez mis une citrouille, un pâti doux, un spaghetti, une courgette normale, un pâtisson, bah vous risquez d'avoir un mélange.
Donc ça veut dire que ce que tu viens de nous dire, et vous retrouverez bien sûr tout ça sur notre site, sur notre blog, ça veut dire que ce que tu viens de nous dire là, on ne peut pas, quand tu as une distance de 2 mètres, 3 mètres, quand tu l'as à l'autre bout du jardin, ça va, mais quand tu les as à proximité, on ne peut pas.
Bah,
parce
on peut,
que ça va forcément...
On peut, mais ça risque, si on veut regarder les graines et les remettre,
oui,
et puis après, on risque de récupérer cet ensemble en sachant que, bien sûr, il faudrait aussi que les voisins ne le fassent pas, mais s'il y a des fleurs à proximité... le pollinisateur n'est pas débile, il va pas aller forcément d'une fleur à 1 km.
Oui.
S'il y a toutes les fleurs à proximité, on a grande chance que ça soit les fleurs d'à proximité qui vont faire le croisement.
Donc, on pense pas aussi aux voisins, c'est ça.
Voilà. Donc c'est pour ça, comme dit, ce qui est important, c'est que la courgette, c'est une cucurbitacée, cucurbita, pépo. Voilà, il y en a d'autres, ça sera des maxima, il y en a d'autres, c'est des citrullus. Donc voilà, mais là, ce qui est sûr, c'est que citrouille, courge, patidou, les spag, les courges décoratives aussi, ce qu'on appelle les fausses coloquintes et les pâtissons, ils sont tous pépos. Donc tout ça, ça risque de se mélanger si on souhaite récolter les graines.
Voilà, donc tant qu'on les mange, il n'y a pas de souci. Si on reprend les graines de ces courges, on va avoir des choses pas
peut-être
forcément toxiques. Mais peut-être difforme, peut-être un assemblage. Voilà,
voilà
on ne peut pas récupérer ces coups.
Voilà, et je sais très bien, par exemple, qu'une citrouille, ben, si on veut une citrouille, c'est avoir une citrouille, quoi. C'est pas d'avoir une courgette citrouille.
Oui, une courgette citrouille, voilà. Oui,
c'est
ouais.
Ça.
Ou voilà. Une courge spaghetti, citrouille, pâtisson. Ouais.
Bon, exactement. Voilà. Et là aussi, pour récolter les graines, ce qui est important, c'est que il faut que la courge, quand vous voulez récolter les graines, il faut que la courge devienne terne ou qu'il y ait du jaune qui apparaît sur la courge quand c'est une courgette verte. Ça veut
d'accord.
dire que là, quand on a un fruit qui devient terne, c'est-à-dire plus brillant comme au début quand il est jeune, ou qui apparaît du jaune dans le vert, c'est que la courge est mature pour récolter les graines.
Mmh.
Voilà, parce que si on les récolte trop tôt, ça ne va pas.
Bien. Donc rendez-vous sur notre blog, bien sûr, pour retrouver ce tableau qui nous permet au moins d'en savoir un petit peu plus. Mais avant ça, bien sûr, on va rajouter une pierre à ce sujet qui est le faux dicton du jour,
Oui,
la
alors
semaine.
là, il n'y aura pas de chanson.
Ah.
Alors, je suis un peu vexé parce
Oui, oui, oui,
que
oui,
il n'y a eu
oui, je
pas de
sais.
retour. Il n'y a pas eu de
Oui.
retour, même de savoir si c'est bien ou pas bien.
Mais je
Bon.
pense qu'on n'est pas écouté, en fait, ça doit être ça.
C'est ça et de ça. Voilà.
Ouais,
Ou
ça doit être
pas
ça.
jusqu'au bout, en tout cas.
Ou peut-être
Oui,
pas
les
jusqu'au
gens ont
bout.
compris que quand on dit faux dicton, il faut peut-être plus écouter après. Mais bon.
On le mettra
Voilà.
au début.
Voilà. Donc, j'ai fait un truc banal. Voilà. Donc, un faux dicton banal. Qui pratique la chasse à courgettes se jette à corps et à cri avec ses chiens dans le potager.
La face,
La
oui. La
fameuse
chasse à
chasse à courgettes.
courge. La chasse à courgette, très bien. Bah, elle ferait moins de mal, celle-là, tiens, la chasse à
Ouais.
courgette. Pourquoi pas? Bien, merci en tout cas, Eric, pour ce dossier de la semaine, pour tes questions, pour tes réponses, surtout tes interrogations. Trois choses à savoir, rendez-vous sur Instagram, sur Facebook pour nous suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous suivre en newsletter tous les vendredis. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est en bas sur notre site. Vous y avez accès facilement. Rendez-vous sur le blog aussi, monjardinbio.com, rubrique blog, pour avoir toutes les informations. Et puis, vous pouvez écouter ou réécouter ce podcast sur toutes les plateformes. Nous envoyer des messages via ces plateformes, ou en tout cas, nous laisser des commentaires, des étoiles. Rendez-vous la semaine prochaine, évidemment. onsaimefort@monjardinbio.com pour vos questions, commentaires, réactions. Réécouter la merveilleuse improvisation très écrite de la semaine dernière sur les plateformes. Ça, vous nous en direz des nouvelles. Envoyez-nous au moins un message, comme ça, Eric sait s'il doit continuer, s'inscrire au casting de The Voice ou pas. Et on ne va pas se quitter sans le mot de la fin. Eric, je te laisse la parole.
Alors, c'est un mot qui est pour deux choses qu'il ne faut surtout pas faire au nord de la France, semer des haricots et planter les tomates. Parce que
Voilà.
là, je les vois dans les jardins.
Attention! Soyez pas trop pressés, pour le coup. Bien. Merci Eric.
Merci
À la semaine
Brice, à la
prochaine. Salut,
prochaine.
salut.
Salut, salut.